Nous recevons Yann Lann, bonjour Yann Lann, vous publiez Chez les Yann, une famille au cœur d'un siècle d'histoire chinoise. Vous racontez l'histoire de votre famille broyée par la révolution culturelle. Vous êtes aujourd'hui l'une des femmes les plus puissantes de Chine puisque vous dirigez la banque Lazare pour Hong Kong, Taïwan et la Chine continentale. Et comme il est d'usage dans cette émission, je voulais vous faire entendre un extrait d'émission, une émission extrêmement célèbre en France puisqu'il s'agit d'Apostrophe. C'était en 1983 et le présentateur de cette émission, Bernard Pivot, recevait un sinologue que vous connaissez bien puisque vous le citez, Simon Leys, et une journaliste revenue de Chine, Marie-Antoinette Macchiocchi.
Son ouvrage de la Chine, c'est d'une stupidité totale. Parce que si on ne l'accusait pas d'être stupide, il faudrait dire que c'est une escroquerie. De la Chine repose essentiellement sur deux hypothèses fondamentales qui sont présentées non pas comme des hypothèses, mais comme des données de fait. L'une, c'est que le peuple chinois, le peuple de Mao, est une humanité sans péché, qui l'a sauvé du péché, qui l'a délivré de la condition humaine qui est notre lot commun, on ne sait pas trop, c'est Mao, semble-t-il. Du fait que c'est une humanité sans péché, découle tout normalement des faits, comme Mme Macchiocchi constate avec émerveillement, qu'en Chine, les ouvriers refusent les augmentations de salaire et estiment que des organisations syndicales sont superflues. Les paysans pratiquent la philosophie et la pensée de Mao fait pousser les cacahuètes.
Mais je n'écris pas ça, messieurs.
Si vous l'écrivez, madame.
Qu'elle ne fait pas pousser. Vous me donnez la page, alors, tout de suite. Hein? Parce que, non, vous devez être sérieux, là. Vous devez dire ça, dans la page.
Vous expliquez comment la dialectique augmente la production dans les campagnes.
Parce que l'escroquerie ne sera pas de mon côté à ce moment-là, parce que je n'ai jamais écrit ça.
Vous écrivez que la dialectique maoïste augmente la production
agricole. Mais la dialectique, vous parlez d'autre chose. Mais je vous défie
Madame Macchiocchi, vous avez parlé beaucoup ce soir.
La ligne, où j'ai dit ça.
C'est un échange qui est resté extrêmement célèbre, Yann Lann. Hélas, même si cet échange a aujourd'hui 34 ans, je ne suis pas certain que tout le monde soit au fait en France, les plus jeunes ou les plus âgés, soit au fait de ce qu'a été la révolution culturelle. Il peut y avoir, par exemple, un homme que l'on présente comme un philosophe, Alain Badiou, qui peut tranquillement évoquer, je le cite, les propositions passionnantes de la phase finale de la révolution culturelle en Chine de 1971 à 1975. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais tout d'abord que vous nous racontiez comment la révolution culturelle a broyé votre famille. Il faut tout d'abord dire que votre famille était une famille parfaitement insérée dans le système communiste, que votre papa était interprète en russe, il a été interprète pour Mao et pour Chou Enlai, votre grand-père était également un homme important pour le communisme. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces hommes et ces femmes de votre famille à cette époque, Yann Lann?
Pendant la révolution culturelle, il y a exactement 50 ans, je me rappelle très bien la scène d'un dîner. La révolution culturelle avait commencé en 1966. Et ce jour-là, c'était en novembre, 6 novembre 1977. Pardon. Oui, 67. Et donc j'ai vu, parce que j'ai vécu mon enfance avec mes grands-parents paternels, et j'ai vu de mes propres yeux l'arrestation de mon grand-père, qui pourtant a contribué pendant la guerre civile, pendant la deuxième guerre anti-japonaise en Chine, beaucoup contribué pour la cause de la Chine et surtout aider la partie communiste. Pendant la révolution culturelle, il était accusé d'être anti-révolutionnaire et faisait partie d'un groupe de anti-révolutionnaires dans le nord-est de Chine, donc qui est ancien Mandchourie. Donc, 10 jours après, mon père était arrêté. Tous les deux étaient jetés en prison à côté de Pékin. C'est une prison qui est spécialisée, conçue pour des prisonniers politiques de haut rang. Et mon père était accusé d'être aidé les dirigeants chinois tels que Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, etc., pour traduire, donc pour les aider à trahir le pays avec l'Union soviétique.
Et oui, parce qu'en fait, il faut expliquer que l'une des critiques, l'une des fausses accusations qui était lancée contre ces membres donc du Parti communiste, puisqu'on l'a compris, vos parents étaient des communistes, étaient des communistes convaincus, était d'être des agents pro-soviétiques.
Oui, tout à fait. Et surtout, au plus haut niveau. Donc, Liu Shaoqi était un traître. Donc, pour de la Chine et donc agent, donc pro-Union soviétique. Et il en est de même pour d'autres dirigeants chinois de l'époque. Et donc, je dois dire cette... donc, 10 ans de cette révolution culturelle dont j'étais témoin et j'étais victime et j'étais représentante de toute une génération qui a beaucoup souffert. Et c'était un désastre et c'était une tragédie pour la Chine.
Avant que vous ne continuiez, Yan Lan, à nous expliquer ce qu'a été cet épisode chinois, épisode que vous racontez dans un livre publié chez Alary Édition, chez les Yan, j'aimerais tout d'abord que vous nous expliquiez comment vous avez appris le français, puisque vous parlez un français parfait, ce qui est particulièrement rare en Chine. Comment expliquez-vous cela ?
Je n'ai pas trop de mérite. Donc, tout d'abord, après la révolution culturelle, pendant la révolution culturelle, personne, les jeunes, ne pouvaient pas, n'avaient pas le droit d'aller directement à l'université. Il n'y a que les candidats de ouvriers, soldats et paysans qui pouvaient être recommandés pour aller à l'université.
Et ce qui veut dire que vous n'avez pas eu le droit. Il faut le dire, pendant cette période passionnante pour Alain Badiou, vous avez été mise à la porte de l'université.
Exactement. Et surtout, des enfants, des intellectuels, les enfants des familles contre-révolutionnaires, on n'avait pas du tout le droit d'aller à l'université. Donc, la plupart étaient obligés de partir à la campagne pour éduquer, pour recevoir, soi-disant, la rééducation. En effet, c'est travailler dans les champs. Une sorte de sanction donc pénalisant les jeunes intellectuels en nous privant la possibilité de faire nos études. Et après 10 ans de révolution culturelle, la première bonne nouvelle pour nous, les jeunes, j'avais à l'époque 20 ans, donc je me rappelle très bien ce jour, on a reçu la bonne nouvelle par la radio que Deng Xiaoping, le gouvernement dirigé par Deng Xiaoping a annoncé la nouvelle de réinstaller l'examen national pour tous les jeunes pour passer à l'université. Tout le monde était fou de joie. On a telle envie, telle soif, on avait telle soif de pouvoir étudier. Et donc tout le monde se précipitait pour préparer cet examen national. L'examen était passé en 1977. Et donc, c'est une génération de 77, génération de jeunes qui ont beaucoup de chance par rapport à nos amis de même âge, de pouvoir être admis à l'université parce que le taux de réussite était 5-6%. La concurrence était très, très, très rude.
Vous racontez des choses particulièrement émouvantes, Yan Lan, de votre enfance pendant la révolution culturelle. Vous étiez éloigné de votre maman, vous ne pouviez la voir qu'un jour par semaine au terme d'un périple très éprouvant pour la petite fille que vous étiez. Et comment aviez-vous la possibilité de la voir, sachant en plus que votre nom était jeté à l'opprobre de tous?
Oui, donc en effet, dans un premier temps, après l'arrestation de mon grand-père et de mon père, maman était mise à donc assignée à résidence dans son ministère. Donc pendant 10 mois, je ne pouvais pas la voir. Et ensuite, un jour, elle a dit, elle revenait parce que je vivais avec ma grand-mère dans le désespoir et dans l'attente permanente du retour de mon grand-père et de mon père et de maman. Et maman est retournée un jour, il dit, le lendemain, elle devait partir, en effet, à fin fond de la campagne, à la frontière de l'Union soviétique et la Chine, très très loin, à Heilongjiang, dans la province du Nord. Et en effet, c'était donc c'était de cette époque 68, 69. Donc, les intellectuels, beaucoup d'intellectuels ont été chassés à la campagne pour dans une sorte de camp de concentration, camp de rééducation, et loin de Pékin. Et maman est partie, j'étais tout seul à Pékin pendant plus d'un an, dans une sorte de pensionnat pour continuer mes études au lycée. Donc, et en même temps, donc le soir, je rentrais dans le pensionnat. En effet, les enfants étaient de même situation que moi. Tous leurs parents étaient aussi dans le camp de rééducation.
Et alors, il y a eu des scènes qui étaient particulièrement tristes parce que certains enfants dénonçaient leurs parents, et certains enfants avaient envie de prendre la panoplie des gardes rouges, parce que vous rappelez à quel point, et c'est d'ailleurs un fait commun à tous les systèmes totalitaires, vous racontez à quel point les gardes rouges étaient jeunes. Chez les Khmers rouges, il y avait des jeunes, chez les nazis, il y avait des jeunes, et chez les gardes rouges aussi, c'était souvent des jeunes gens qui commettaient des actes particulièrement atroces. Il faut dire qu'il y a eu, bon, sur le bilan, on discute encore, mais entre 1 et 5 millions de morts uniquement pendant la révolution culturelle, Yan Lan.
Oui, et en effet, aujourd'hui, je repense à ces gardes rouges, tout jeunes, à partir de 15 ans, 16 ans et au-delà, et ils étaient aveuglément convertis et aveuglément croyaient cette révolution. Et je pensais que ce sont aussi des victimes de cette révolution culturelle, eux-mêmes. Et ils croyaient cette cause de la révolution, ils croyaient, ils pensaient que les gens qui ont ciblé des intellectuels, des professeurs, des académiciens, ce sont tous des classes bourgeois, anti-révolutionnaires, et donc c'était le cible pour eux d'attaques, même avec violence incroyable.
Pour autant, vous racontez, parce que là aussi, on peut se dire, bon, mais finalement, vous étiez dans une famille d'apparatchiks du régime, vous racontez que, même si vous aviez de l'argent, vous mangiez évidemment à votre faim, vous n'étiez pas des gens puissants, vous n'aviez pas, par exemple, à la fin du mois, beaucoup d'argent.
Oui, parce qu'à l'époque, dans le système communiste, donc le grand principe, c'est que c'est beaucoup plus un principe de égalitaire. Et donc même grand-père qui a un dignitaire, donc tout le monde considérait pendant les années 50, 60, il gagnait beaucoup, et c'est donc à peu près le niveau, enfin 200 yuan, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Et parce que dans ce système, donc beaucoup de choses étaient attribuées aux fonctionnaires. Par exemple, il a une voiture à sa disposition, un appartement de fonction sans loyer. Donc, pourtant, je me rappelle que mes grands-parents avaient toujours la difficulté de joindre les deux bouts à la fin, parce que ils sont toujours très généreux de aider tous les gens qui passent, qui viennent chez eux, leurs compatriotes. Ils connaissent, ils connaissent pas, de Nord-Est et la famille qui sont en difficulté financière, etc. Ils n'ont jamais hésité de leur donner de l'argent pour les aider. Ça, c'est la générosité de la famille de Yan.
Et puis, comme je l'ai dit, Yan Lan, votre père était donc interprète en russe de Mao et du Premier ministre de l'époque, Chou Enlai. Qu'est-ce qu'il vous racontait sur Mao et Chou Enlai?
Et je pensais, lui, mon père, a sorti ses mémoires il y a 2 ans. Donc, en chinois, dans ses mémoires, il y a des chapitres importants, il y a une partie importante qu'il a consacrée pour les années 50 et les années 60, dans lesquelles il travaillait comme interprète de Mao Zedong et de tous ses dirigeants, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Liu Shaoqi, qui est à l'époque le président de la Chine. Et donc, il est impliqué dans ces relations sino-soviétiques. Il a décrit ces périodes en disant que c'est de lune de miel à la guerre froide. Donc, pour Zhou Enlai, ma famille a une relation particulière avec le premier ministre Zhou Enlai, parce que mon grand-père, pendant les années 30, a rencontré Zhou Enlai. Et c'est Zhou Enlai, le premier ministre, à l'époque le vice-président, qui a introduit et converti, dans un certain sens, mon grand-père de christianisme en communiste. Et donc, ce lien d'amitié reste toujours après la Nouvelle-Chine. Et mon père avait travaillé comme interprète pour Zhou Enlai, toujours dans les relations sino-soviétiques.
Quel genre d'homme était-il, justement, Zhou Enlai et Mao Yanlan?
Et selon mon père, donc, dans les relations l'Union soviétique et la Chine, Mao est toujours en premier lieu une nationaliste. Avant tout. Donc, il ne voulait pas que l'Union soviétique domine la partie communiste chinoise et donc il ne voulait pas suivre l'Union soviétique en tant donc, qu'un grand leader de Chine. Et donc, de là, il y a beaucoup de conflits qui étaient nés. Non seulement dans la idéologie et surtout aussi dans les relations entre l'État. Et Zhou Enlai, est quelqu'un, mon père est toujours considéré, c'est un grand diplomate, et avec une intelligence dans la négociation. Et je vais vous raconter une anecdote.
Rapidement.
Oui, donc pendant la révolution culturelle, mon grand-père était jeté en prison, toute ma famille était expulsé ou jeté en prison, mes oncles, ma tante, etc. Ma grand-mère était très malade. Elle n'a plus de l'argent pour se faire soigner son cancer. Elle a osé écrire, elle a pensé à Zhou Enlai, elle a écrit une lettre au Premier ministre. Elle dit, vu de tout ce qu'on a fait pour la partie communiste pendant les années 30-40, je tiens à vous remercier de rembourser les frais des soins et aussi pour mon enterrement. Et le lendemain de l'envoi de ces petites lettres, Zhou Enlai a répondu et il a pris tout en charge de tous ces frais.